Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Bon début de soirée sur les ondes de choix, 98.1 Radio X. Lançons le week-end ensemble en ce vendredi 16 mai 2025. Et voici l'extrait des Radio X-Files qui lance la thématique de la soirée.
Le désert me manque. La mer me manque. Et ça me manque de me réveiller chaque matin. En me demandant quelle belle aventure cette nouvelle journée nous réserve.
Ces jours-là sont derrière nous.
Peut-être. Peut-être pas.
Je ne crois pas à la magie. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. Des choses inexplicables. Et j'en suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit. C'est à quel point on y croit.
Qui est cet homme?
Je suis son parrain. Je vais me fâcher.
On voit avec la bande-annonce qu'on n'est pas avec le premier film de la franchise, mon cher Christian. Je te souhaite bon début de soirée.
Et toi aussi. Effectivement, on vient d'entendre le tout dernier, la bande-annonce du tout dernier volet de la série de la franchise, comme tu le mentionnes, des Indiana Jones. C'était Indiana Jones, de mémoire, je pense que c'est le numéro 5. C'était en 2023, qui s'intitulait Indiana Jones et le cadran de la destinée. Et pourquoi je te parle de ça? Ben parce que notre thématique de ce soir, ce sont les énigmes de l'histoire, oui. Théorie du complot. Et il y a un article qui est paru il y a quelques jours. En fait, c'est un article qui est paru dans le un site de pré-publication scientifique qui s'appelle le RX. Et sans les auteurs, ce sont deux scientifiques de l'université de Mar del Plata, on se trouve en Argentine, et ils remettent en question l'acuité du mécanisme denticitaire. Donc, qu'est-ce que c'est ce mécanisme denticitaire? Il faut savoir qu'il est l'inspiration derrière le fameux cadran de la destinée.
Oui.
Donc, ce mécanisme denticitaire qui ne ressemble pas du tout au cadran que l'on voit dans le film Indiana Jones, pour la petite histoire, rappelons que en 1900, il y avait des plongeurs qui allaient récupérer des éponges au large de l'île d'Anticitaire, on est en mer Égée, et à ce moment-là, ils ont trouvé à quelques dizaines de mètres de profondeur, l'épave était là depuis des siècles, c'était une épave d'un navire grec qui avait sombré et qui était là sur le fond rocailleux. Et donc, à partir de là, on a commencé à épurer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'épave, et en 1901, ça a perduré pendant des années. Mais en 1901, pour la première fois, on a remonté un morceau de ce qui semblait être un boîtier. Et dans ce boîtier, on pouvait voir, il y avait évidemment de la boue, de la corrosion autour du boîtier, mais on devinait une espèce de roue métallique et une partie du boîtier en bois. Comme on ne savait pas de quoi il s'agissait, on l'a mis de côté. Et puis, au cours des mois et des années qui ont suivi, en fait, entre 1901 et 1903, on va remonter à la surface plusieurs parties de ce qui va constituer ce mécanisme, cette boîte. En fait, on ne sait pas encore que c'est un mécanisme. Donc, cette boîte avec cette corrosion. Et les objets objets vont être placés dans le musée de Athènes, dans les réserves du musée pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'à ce que dans les années 50, on décide, alors qu'on faisait une espèce de vérification, un inventaire du contenu des réserves, on va passer cet objet-là au rayon X pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et là, c'est la stupéfaction. À l'intérieur de ce boîtier, on découvre un mécanisme avec des rouages dentelés, un mécanisme différentiel, comme ceux que l'on retrouve, par exemple, dans les horloges. C'est visiblement un mécanisme un peu comme un mécanisme d'horlogerie.
OK.
On n'a jamais rien vu de tel. Hein. Des mécanismes avec des roues différentielles, un mécanisme différentiel comme ceux-là, il faut attendre vraiment le Moyen-Âge pour voir apparaître ça en Europe. Donc l'idée que un tel objet ait pu exister dans l'Antiquité, parce qu'il faut quand même savoir que l'analyse de l'épave, les objets remontés à la surface, les datations au carbone 14 sur les différents objets remontés, permettent de croire que l'épave en question aurait sombré aux alentours de l'an 60 avant l'ère commune.
Oh, wow, OK.
Donc, on est dans l'Antiquité. Donc, imaginez qu'un mécanisme comme ça a pu exister dans l'Antiquité, c'est tout à fait invraisemblable. Quoique, il y a quelques chroniques anciennes, antiques, qui parlent de mécanismes semblables. Des gens, des chroniqueurs de l'Antiquité ont dit, oui, on a vu un mécanisme qui était tout à fait fantastique avec des rouages, mais on n'en a jamais vu. En dehors de ces quelques références dans la littérature ancienne, on n'a rien de semblable. Et même à l'époque, que ce soit en Grèce ou que ce soit en Italie, à Rome en particulier, il y avait ce qu'on appelait des automates. Et les automates, c'était comme une espèce de statue, des mécanismes très très simples. Une statue qui, lorsqu'elle se remplissait d'eau, par exemple, avec l'eau de pluie, le bras se soulevait et versait l'eau dans un autre bécher, etc. Donc tu vois, une espèce de robot, mais avec un mécanisme très simple, basé sur le principe de, on remplit de l'eau d'un côté, ça fait soulever le bras, okay. Un système de poulie. C'était très, très rudimentaire. Donc, imaginez qu'un mécanisme aussi complexe, avec un système différentiel, ait pu exister dans l'Antiquité. Ça a immédiatement soulevé une controverse dans les milieux scientifiques, à un point tel qu'on a imaginé d'autres scénarios pour expliquer la présence de l'objet. Et l'un des scénarios qui va tenir la route pendant longtemps, c'est de dire, ben voilà, par un pur hasard, quelque part au Moyen-Âge, un navire a traversé la mer Égée, et durant cette traversée, quelqu'un a échappé par-dessus bord une horloge avec un mécanisme différentiel. Ce mécanisme est tombé sur l'épave par un pur hasard. Et voilà, les plongeurs grecs qui exploraient l'épave, les plongeurs, les chasseurs d'éponges, ont trouvé le mécanisme et on a faussement cru que le mécanisme faisait partie de la cargaison originale. C'est un peu comme... si quelqu'un échappe son téléphone portable dans l'océan Atlantique et par hasard le portable en question tombe sur l'épave du Titanic.
Ça date pas de 1912, c'est sûr.
Voilà, donc on peut imaginer qu'éventuellement des explorateurs du Titanic dans les années à venir, on se dit, oh, on a trouvé un téléphone portable sur l'épave du Titanic. Est-ce qu'il y avait un voyageur du temps qui en 1912 faisait partie de la croisière? Donc on comprend que c'est simplement un anachronisme qui est dû à un hasard. Donc cette idée de l'horloge échappée par-dessus bord, qui serait tombé sur l'épave, va tenir un peu le haut du pavé comme explication, plutôt que d'accepter que un tel mécanisme puisse exister. Et puis éventuellement, à force avec l'avènement de nouvelles techniques, la tomographie qui permet de mieux voir les objets à l'intérieur de cette gangue de roches et de pierres et de résidus, on voit de mieux en mieux le mécanisme et on voit apparaître éventuellement sur certaines roues, sur certaines parties du mécanisme, on voit apparaître des lettres en grec ancien. Donc, on vient d'éclipser l'idée de l'horloge du Moyen-Âge. Il faut bien admettre la réalité. Cet objet-là date bel et bien de l'Antiquité et il est visiblement de fabrication grecque. Moi, pour l'avoir vu, cet objet-là, je dois t'avouer qu'il faut beaucoup d'imagination. Quand tu es au musée d'Athènes, il est l'une des attractions principales du musée d'Athènes. Et quand tu le vois, heureusement qu'il y a un mécanisme à côté, une reproduction de ce à quoi devait ressembler le mécanisme à l'origine. Parce que quand tu le vois, t'as l'impression d'avoir devant toi trois ou quatre grosses roches.
Le temps a fait son œuvre. Ouais, c'est ce que tu dis.
Tu ne vois pas vraiment le mécanisme en lui-même. Mais là, heureusement, il y a une réplique au côté qui nous montre à quoi devait ressembler le mécanisme à partir partir des radiographies qui ont été prises.
Et le mécanisme en question, Christian, c'est ce qui a permis de faire, quoi, la première carte du ciel?
Non, en fait, c'est l'énigme est demeurée longtemps insoluble. Hein.
OK.
Le mécanisme, il est très, très beau. J'en ai une copie là chez moi, là, une copie telle qu'il devait être à l'époque. Mm. C'est d'ailleurs l'un des objets les plus prisés de ma collection. Là. Quand les gens viennent puis voient le mécanisme d'anticitaire, ils sont comme très étonnés.
OK.
Il est très beau. Ce mécanisme, il est très beau. Et on s'est demandé, mais à quoi il devait servir? Alors, évidemment, on a émis toutes sortes d'hypothèses. Et il est clair que le mécanisme était, on l'a souvent qualifié, du premier ordinateur de l'histoire.
Ah, OK, OK.
Voilà, donc, c'est un mécanisme qui sert d'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'il peut calculer, cet ordinateur? Alors, évidemment, comme on l'a retrouvé sur un bateau, la première réaction, c'était de dire il devait s'agir d'un mécanisme semblable à un astrolabe. Donc, il devait déterminer la position des étoiles, la position de la Lune, et permettre de faciliter la navigation en fonction des points sur l'horizon. Donc, à l'époque, les gens calculaient, bon, on voyait les étoiles, puis on se guidait avec les étoiles. Ce mécanisme-là, semble-t-il, apparemment, si on introduisait les phases de la Lune, à quel endroit le soleil se levait le matin, à quel endroit il se couchait, si on entrait tous ces données dans le mécanisme, il pouvait, semble-t-il, nous donner une localisation, une position où on se trouvait, et permettre ainsi de faciliter la navigation. Donc, mais encore là, il y a des doutes qui subsistent parce que le mécanisme est incomplet. On a plusieurs hypothèses. Une chose est certaine, le mécanisme était très sophistiqué pour son époque et devait être plus ou moins, comme on l'a si bien qualifié, une forme d'ordinateur. Il permettait de calculer quelque chose.
Okay.
Et sur deux des... quand on le regarde de l'extérieur, il y a trois cadrans sur le mécanisme d'anticitaire. Deux d'un côté, un peu comme des cadrans d'horloge. Là. Il y en a deux d'un côté et un troisième sur l'autre face. Sur l'une de ces horloges, il y a comme deux aiguilles, et sur ces aiguilles, on voit, il y a deux sphères. Une qui semble représenter le soleil, et une autre sphère, dont la moitié semble peinte en noir, et l'autre peinte en blanc. Donc, qui semblerait indiquer les phases de la Lune. Donc, déjà à partir de ces... Évidemment, la peinture n'était plus visible quand on l'a trouvée, là. Mais on comprend que cette aiguille tournait sur elle-même et elle devait représenter les phases de la Lune. Donc, ce qui renforcit l'idée que ce mécanisme devait servir à marquer des positions célestes. C'est fabuleux. On s'entend bien, c'est fabuleux. Et l'étude qui a été publiée ne diminue pas l'aspect spectaculaire de la chose. Mais on remet en question son acuité, hein, parce que là, les gens criaient « c'est fantastique, c'est merveilleux ». Et là, voilà que ces deux chercheurs de l'Université de Mar del Plata, Esteban Guillermo Sigzetti et Gustavo Francisco Arenas, ce qu'ils ont fait, ils ont repris les photographies, les rayons X et les tomographies du mécanisme d'anticitaire. Ils en ont créé une copie et ils ont essayé de le faire fonctionner. Et ce qu'ils constatent, c'est que le mécanisme d'anticitaire présente effectivement des roues dentelées, comme on en retrouve dans des mécanismes d'horlogerie. Sauf que quand on regarde un mécanisme d'horlogerie, les roues dentelées sont relativement carrées avec un espace entre les dents qui permet à l'autre roue de s'emboîter plus aisément à l'intérieur.
Okay.
Ce que l'on ne voit pas dans le mécanisme d'anticitaire, on voit vraiment des roues dentelées, bien sûr, mais des roues dont les dents sont excessivement pointues, pratiquement comme des dents de scie. Et voilà que les deux chercheurs disent, si le mécanisme, à moins que ce soit dû à la corrosion, à moins que ce soit dû aux mauvaises photographies, parce que bon, c'est difficile de voir, l'objet est tellement englué, si tu me permets l'expression, dans la rouille, la terre, la boue, le corail.
Il y a peut-être des choses qui ont fusionné, l'eau,
voilà,
ça devait pas.
Donc, ça devient un peu difficile, mais les deux scientifiques se disent, si ces mécanismes-là étaient vraiment construits avec des roues dentelées très pointues, ils devaient dérailler facilement, hein, parce que pourquoi il y a des espaces entre nos mécanismes, dans les roues de nos mécanismes d'horlogerie, c'est pour permettre aux roues de mieux se glisser l'une dans l'autre. Le mécanisme d'anticitaire ne permettait pas ça. Donc, quand les roues tournaient l'une sur l'autre, il suffisait qu'une des roues soit légèrement un peu décalée et soudainement, les roues se mettaient à sauter les unes sur les autres et le mécanisme perdait toute précision. En fait, les deux scientifiques se disent que si ce mécanisme-là était utilisé de manière soutenue, après quelques utilisations seulement, finalement, il devait cesser d'être effectif et donc il ne devenait plus finalement qu'un jouet sans aucun intérêt. Donc évidemment, ça soulève énormément de controverses, hein, cette vision-là, c'est parce que ça diminue un peu l'aspect, l'aura qui entoure le mécanisme d'anticitaire. Mais les deux chercheurs restent quand même, comment je pourrais dire, dithyrambiques par rapport à l'imagerie ou l'imagination plutôt que les gens de l'Antiquité ont déployé pour construire un mécanisme comme celui-là. Et on n'en a jamais trouvé un autre. Hein. Le mécanisme d'anticitaire à ce jour reste unique. Toutes les recherches menées en archéologie, que ce soit en Grèce ou en Italie ou ailleurs, partout dans le monde européen, de ce qui était le monde occidental à l'époque, on n'a jamais rien trouvé de semblable. Il est un exemple unique. Quoique, comme je l'ai mentionné en début, il y a quand même quelques chroniques antiques qui semblent décrire des mécanismes aussi sophistiqués. Est-ce qu'on fait référence ici à ce mécanisme d'anticitère qu'on aurait retrouvé? Hein, le nom d'anticitère, d'ailleurs, c'est le nom de l'île où il a été trouvé. Est-ce qu'on fait référence à cet objet-là ou est-ce qu'on fait référence à d'autres objets analogues qui auraient pu être construits durant l'Antiquité, mais qui malheureusement n'ont pas survécu jusqu'à nos jours? Ça reste un peu...
Ou c'est l'inventeur? Qu'est-ce qui est arrivé à son concepteur aussi qui fait peut-être qu'une seule réplique et que la vie s'est terminée là aussi.
Voilà, donc c'est un peu ça. Dans les aventures d'Indiana Jones, le cadran de la destinée permet à Indiana Jones, je ne veux pas vendre le punch, mais ça lui permet de reculer dans l'Antiquité et aller retrouver, je crois, c'est Archimède qui est qualifié d'être l'inventeur du mécanisme d'anticitère. Bon, bref, c'est une très belle histoire. Mais disons que le mécanisme d'anticitère n'avait rien à voir avec ne permettait pas le voyage à travers le temps,
non.
Ça c'est sûr. Mais ce n'était qu'un mécanisme qui, possiblement, devait servir un peu à localiser les phases de la Lune, le Soleil, les étoiles, tout ça, et permettre peut-être faciliter d'une certaine manière la navigation. Mais son objectif, son utilité première nous est encore un peu inconnue. Et son acuité, ben avec cette étude-là, évidemment, l'acuité de l'appareil est remise un peu en question. Mais ce qui ne doit pas limiter notre admiration par rapport à ce concepteur du passé qui a réussi à faire un mécanisme aussi sophistiqué et aussi extraordinaire pour l'époque.
Avec beaucoup de mystères aussi après cette invention-là, ça va toujours rester de pourquoi? Pourquoi ça fascine?
Moi, je me rappelle, moi-même, j'ai encore une fascination pour le mécanisme d'anticitaire, d'où la raison pourquoi j'en ai un chez moi.
Est-ce que t'es en train de le flatter en ce moment? On le sait pas.
Non, il est pas dans la pièce où je me trouve. Il est dans ma grande bibliothèque.
D'accord.
Il est placé dans la grande bibliothèque. Et quand je me rappelle quand plus tôt, là, dans les années 70 et les années 80, le mécanisme d'anticitaire, on le retrouvait de temps à autre dans la littérature consacrée aux anciens astronautes. Hein, cette théorie voulant que dans un passé lointain, des extraterrestres seraient venus sur Terre, auraient pris contact avec les grandes civilisations du passé,
ouais,
et auraient quelque part les auraient un peu initiés aux mathématiques, à l'astronomie et aussi à l'architecture, et on retrouverait apparemment des témoignages de ces très anciens contacts à travers les grands monuments de l'histoire, comme les pyramides d'Égypte, les temples mayas, etc. Donc, le mécanisme d'anticitère était un peu évoqué dans toute cette foire d'hypothèses qui était proposée et qui relevait et qui évoquait les extraterrestres. Et là, on nous disait, est-ce que les gens qui ont fabriqué le mécanisme d'anticitère, parce qu'il ne fait aucun doute qu'il est de fabrication humaine, hein, c'est pas un engin extraterrestre. Mais on s'est dit, est-ce que les anciens de l'Antiquité, c'est un peu ça, souvent, l'hypothèse des anciens astronautes, c'est l'idée d'un plagiat. Hein, leur principal argument, c'est de dire...
Comme on a fait pareil.
Pas ça. Cet objet-là n'est pas un... Les piles de Bagdad ne sont pas des piles extraterrestres. C'est pas des Everyday venus du futur. Mais est-ce que les anciens n'ont pas voulu reproduire quelque chose qu'ils avaient vu? Et c'est comme ça qu'on aurait construit le mécanisme d'anticitaire. Des gens auraient été initiés par des extraterrestres à des mécanismes complexes. Et après le départ de ces dieux pour retourner vers les étoiles, des gens auraient essayé de fabriquer un mécanisme en fonction de ce qu'ils avaient vu, ce dont ils avaient été les témoins. Et le mécanisme d'anticitaire serait un peu l'héritier de ces contacts extraterrestres. Bon, évidemment, aujourd'hui, avec le recul, tout ça paraît très absurde. Mais néanmoins, dans les années 70, moi, adolescent, je regardais ça, j'avais une fascination. Et j'y ai cru, hein. Je veux dire, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont été fascinés par ces mystères-là. Moi-même, j'y ai cru. Mais évidemment, On comprend que ces gens-là exploitent beaucoup l'ignorance des gens par rapport à l'histoire.
Oh, et la science-fiction, je pense, se sert beaucoup du plus gros fantasme de tout le monde. Je pense que c'est la machine à voyager dans le temps aussi. Là,
ouais,
c'est
ça.
L'idée qu'on a essayé de la créer ou qu'elle peut peut-être exister dans, même dans une, dans un timeline parallèle avec la physique quantique. Ça amène des grands questionnements aussi, Christian.
Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, comme cette théorie des anciens astronautes, ben, tu sais, c'est sûr que les gens qui en font la promotion, s'adresse à un public qui connaît mal l'histoire, connaît mal l'archéologie, connaît mal comment les protocoles de l'archéologie s'articulent pour pouvoir qualifier une recherche d'une découverte et autres. Et on exploite ce filon-là et les gens, ben, évidemment, y adhèrent. Moi, c'est sûr que quand j'avais 14-15 ans, je n'avais pas les connaissances en histoire que j'ai aujourd'hui. Donc, je me laissais facilement entraîner dans ces fantasmes pour finalement découvrir que ce n'était rien de plus que des fantasmes, justement.
Oui.
Donc, merci, bonsoir pour le mécanisme d'Anticitaire. Ce n'est certainement pas un plagiat d'une machine extraterrestre, mais quand même, levons notre chapeau à ceux qui ont pensé et ont imaginé ce mécanisme il y a maintenant 2000 ans.
Absolument. Christian, est-ce que tu veux qu'on fasse la pause tout de suite? Au retour, tu t'attaques à un sujet que j'attendais beaucoup que tu te prononces, honnêtement, avec l'actualité qu'on a eue dans les dernières semaines. Est-ce que c'est la fin du tourisme à Alcatraz.
Je suis allée,
je peux le cocher au moins.
Ah ben écoute, on va être en terrain connu, parce qu'effectivement, j'en ai long à dire sur Alcatraz. Donc on fait une pause et on se retrouve après de l'autre côté du mur.
Super! Restez là dans quelques minutes ici même à Radio X.
Radio X Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, Christian, qu'est-ce qui va se passer avec Alcatraz?
Je pense que ça va continuer d'être une attraction touristique.
Ah oui, pour les prochaines années du moins, je pense aussi.
Bon, effectivement, pourquoi on parle d'Alcatraz, j'en ai parlé à quelques reprises, même il y a 2 semaines, je crois, au moment où la nouvelle est tombée.
Oui.
J'en avais parlé avec nos collègues du retour. La question était, est-ce que c'est Donald Trump qui annonce comme ça, on va rouvrir Alcatraz pour y envoyer les très méchants migrants, là? Et là, tu dis, c'est comme du grand n'importe quoi, là, rouvrir Alcatraz, c'est comme impensable.
Qui a fermé parce que ça coûtait trop cher d'entretien.
Voilà, parce qu'au moment où Donald Trump fait cette annonce-là, il dit « Ah, Alcatraz », il dit « C'est un symbole puissant dans l'imaginaire collectif ». Sur ce point, il a tout à fait raison. Alcatraz est à la répression du crime dans l'imaginaire des gens. Il est un peu ce que le Titanic est à la navigation transatlantique, les grandes traversées sur des paquebots. Mais ce n'est que ça, ce sont des symboles qui appartiennent à une autre époque. Donc, c'est aussi invraisemblable d'imaginer rouvrir Alcatraz que d'imaginer renflouer le Titanic. C'est comme une espèce de... Dans l'absolu, c'est absurde. Bon, et tu l'as bien mentionné, Alcatraz a fermé en 1963 parce que les coûts d'administration étaient 3 fois plus élevés que toutes les autres prisons aux États-Unis.
Et
parce que...
Et ça a précisé en argent de 1963 aussi.
Oui, oui. Il faut quand même, tu sais, l'idée... On se dit, construire une prison sur une île, c'est une bien bonne idée. Mais ultimement, quand arrive le moment de s'assurer d'amener dans l'île les denrées nécessaires à la population carcérale, servir, parce qu'à l'époque où Alcatraz était effective, il y avait un quartier des gardiens, il y avait des familles entières qui vivaient dans l'île d'Alcatraz, parce qu'on pouvait pas se permettre de les amener le matin et soir à chacun des quarts de travail. Donc, il y avait une administration qui était excessivement lourde et très coûteuse. Donc, rien que pour une petite page d'histoire, rappelons que l'île d'Alcatraz, qui veut dire l'île aux pélicans, elle se trouve dans la baie de San Francisco, tout près, on la voit bien, elle est, quel que soit l'endroit où quand on se dirige vers le port de San Francisco, c'est difficile de ne pas la voir, c'est très impressionnant, ce pénitencier qui est construit sur le dessus de l'île, au milieu de la baie. Au départ, l'île voulait dire l'île aux pélicans, Alcatraz veut dire l'île aux pélicans. En 1850, au moment où la Californie est devenue un État des États-Unis, États-Unis fédérés. On a construit un fort sur l'île, une forteresse en fait, parce qu'on craignait une éventuelle attaque des Espagnols, et éventuellement attaque qui n'a jamais eu lieu. Et la forteresse est devenue une prison militaire à la fin du 19e siècle, et éventuellement en 1933, on a décidé de construire une superstructure par-dessus la prison déjà existante, et l'année suivante, 1934, c'est l'ouverture officielle du pénitencier fédéral d'Alcatraz tel qu'on le connaît aujourd'hui. À ce moment-là, on disait que personne ne pouvait s'échapper d'Alcatraz parce que, bon, le bâtiment était hautement sécuritaire, mais même dans l'éventualité, il faut faire attention parce qu'ils disaient, non, on peut pas sortir du bâtiment. C'était pas tout à fait ça. La réputation d'Alcatraz, c'était, même si tu sors du bâtiment, tu pourras pas quitter l'île.
Essaye-toi pas.
Parce qu'il y avait la réputation, bon, d'abord, les bâtiments étaient à peu près étanches à toute tentative d'évasion, mais même dans la perspective où un prisonnier réussissait à sortir des bâtiments, il fallait quitter l'île. Et là, quitter l'île devenait très problématique d'une part parce qu'on avait les eaux glaciales de la baie de San Francisco qui entraînent une hypothermie après quelques minutes seulement. Et ensuite, il y a les courants très, très forts de la baie de San Francisco qui tirent tout vers l'océan Pacifique. Donc, les courants sont si forts que ça devient quasi impossible de rejoindre ou bien le port de San Francisco ou les îles autour. Je pense notamment à Angel Island qui est tout près de l'île d'Alcatraz. On disait aussi à l'époque, pour décourager les tentatives d'évasion, que l'île était, la baie de San Francisco était infestée de requins.
Oui.
Bon, ce qui est faux, hein. Bon, bien sûr, il y a parfois des requins qui s'aventurent dans la baie de San Francisco, mais les populations de requins ne représentent pas vraiment une menace. Donc, ça, c'est un pieux mensonge quand même. Mais ça n'a pas empêché l'île d'Alcatraz d'être le théâtre de plusieurs tentatives d'évasion. Et quand on parle de tentatives d'évasion, la première, bien sûr, qui nous vient en tête, c'est celle du 11 juin 1962, lorsque trois prisonniers, Frank Morris et les frères John et Clarence England, ont réussi à déloger la grille qui était au fond de leur cellule, ce qui leur a donné accès à un corridor de service entre deux blocs cellulaires. De cet endroit-là, de ce bloc, de ce tunnel de service, de ce corridor de service, ils ont pu grimper jusqu'au toit et ils sont descendus du côté ouest de l'île. Ils se sont lancés à la mer avec des petits radeaux qui avaient été fabriqués à partir d'imperméables volés au magasin de la prison. D'ailleurs, c'était une des failles. On ne comptait pas les imperméables. Donc, ils ont pu en voler une soixantaine pour faire leur radeau. C'était une des seules choses qu'on comptait pas, les imperméables. Donc, ils ont pu faire leur radeau et se sont lancés à la mer. On ne les a jamais revus ensuite. Bon, l'enquête des U.S. Marshals a conclu que les hommes s'étaient certainement noyés dans la baie de San Francisco. Mais comme aucun corps n'a jamais été retrouvé, on comprend que le sort des évadés reste incertain. Avec les années, il y a des rumeurs qui ont circulé que les frères England et Frank Morris auraient survécu. Il y a même un moment donné une photographie qui a circulé où on disait que cette photographie prise en Amérique du Sud montrait les frères John et Clarence England. Même une lettre, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, peut-être un petit peu plus long, peut-être 10 ans maintenant, une lettre avait été envoyée à la police de San Francisco où l'auteur se déclarait être un des frères England qui était âgé, malade, etc. Mais toutes ces histoires-là ont été balayées du revers de la main par les autorités pour plusieurs raisons. Ou bien l'écriture ne correspondait pas à celle des frères England, ou bien les photographies présentées des spécialistes en anthropomorphie ont établi clairement que la photo montrait pas les frères England. Donc il y a plusieurs éléments. Aucun de ces éléments-là n'a réellement été retenu. Pour rien ne permet de croire que Frank Morris et les frères England aient pu s'échapper d'Alcatraz et que contrairement à ce que dit le rapport des U.S. Marshals, ne se soit pas noyé dans la baie. Donc, ça reste très, 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 très hypothétique d'imaginer que Frank Morris et les frères England aient survécu. Et ensuite, d'un autre côté, pour ceux qui ont connu Frank Morris, c'est amusant parce que cette évasion très, très spectaculaire a été portée à plusieurs reprises au petit écran ou au grand écran. On pense notamment au film de 1979 avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris, oui, qui s'intitulait L'évadé d'Alcatraz. Et je suspecte Donald Trump d'avoir trop regardé ce film. Donc, et là, il s'imagine probablement que le pénitencier est tel qu'on le voit dans le film. Mais bon, le temps a passé depuis. Mais c'est amusant parce que le film avec Clint Eastwood nous rend presque sympathique Frank Morris, hein. c'est bien sûr, c'est Clint Eastwood qui incarne Frank Morris. Donc, c'est sûr qu'il me semble sympathique. Dans la réalité, Frank Morris était vraiment un malfrat. C'était vraiment un bandit de la pire espèce, un individu excessivement violent. Rien à voir avec le personnage sympathique que nous dépeint Clint Eastwood dans le film. Cela étant dit, Frank Morris est un individu qui était très intelligent. Les évaluations psychologiques situent son QI entre 140 et 160. C'est un individu excessivement brillant et c'est un individu qui était très, très narcissique. Donc, tous les gens qui ont côtoyé, qui ont connu Frank Morris sont tous unanimes. Si Frank Morris avait réellement réussi à s'évader du pénitencier d'Alcatraz, il n'aurait pas résisté, il aurait été incapable de résister à faire un pied de nez au service de police ou au département de correction pour leur dire, ben voilà, votre pénitencier, vous pouvez vous le mettre où je pense. Il aurait été incapable de résister à cette envie-là. Or, comme les Frank Morris et les frères Anglin n'ont jamais refait parler d'eux ensuite, ça ne fait qu'ajouter à l'hypothèse des US Marshals qui se sont probablement noyés dans la baie. Cela étant dit, comme tu l'as mentionné, on a fermé le pénitencier l'année suivante. Rien à voir avec l'évasion. Déjà à ce moment-là, il y avait des discussions pour fermer le pénitencier parce qu'il était excessivement coûteux à administrer. Oui. Et en 1963, donc un an à peu près après l'évasion, le pénitencier a fermé définitivement. Les bâtiments sont restés à l'abandon, ils ont été squattés par des militants des Premières Nations qui ont réclamé l'île ensuite.
On voit les graffitis quand on y va d'ailleurs.
Oui, absolument. Et puis en 1973, l'île d'Alcatraz et son pénitencier a été rétrocédé au département de l'intérieur. Ça appartenait au département de correction, ça a été cédé au département de l'intérieur, qui en a fait un parc récréo-touristique. Et ce parc récréo-touristique a ouvert en 1973 et il est aujourd'hui l'une des activités touristiques les plus courues de la grande région de San Francisco. Moi, j'y suis allé à quelques reprises, même pour des raisons de tournage, j'ai eu accès à la totalité du pénitencier. J'avais le pénitencier pour moi tout seul.
Donc,
je courais dans les corridors avec l'équipe de tournage. On s'amusait. On s'est enfermé dans des cellules. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Mais bon, tout ça pour dire que, et toi, je sais que tu as visité également le pénitencier d'Alcatraz.
Tout récemment, novembre. Oui.
En novembre. Donc, quand on visite le pénitencier d'Alcatraz, quand on sort un peu du bloc cellulaire, parce que c'est bien sûr l'élément principal quand les touristes se débarquent dans l'île, quand on quitte ce bâtiment principal et on fait le tour des autres bâtiments, on se rend compte assez rapidement que tout ça est dans un état de délabrement assez avancé, de décrépitude. À quelques endroits, on voit que les bâtiments, les structures sont fissurées, lézardées. Sur les murs, on voit que le béton s'effrite à cause de la rouille des tiges de métal à l'intérieur du béton. Donc, le bâtiment fait encore une très bonne sortie touristique, mais d'imaginer de pouvoir reniper tous ces bâtiments-là pour accueillir de nouveaux prisonniers, c'est à peu près invraisemblable, sans compter que le pénitencier est pas très grand. Il avait été conçu à l'origine pour accueillir entre 250 et 300 prisonniers, ce qui est relativement peu. Non. Et ensuite de ça, bien sûr, non seulement les bâtiments sont aujourd'hui dans décrépitude, dans des états de délabrement. Les systèmes de sécurité qui ont fait l'orgueil d'Alcatraz dans les années 60 et les années 50 et 60 n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des portes magnétiques pour fermer les portes des cellules, alors qu'Alcatraz, c'est encore des grosses...
La vieille clé.
La vieille avec la grosse clé squelette qu'on mettait dans ses rues. C'est désuet, c'est passé, ça appartient à une autre époque. Il serait moins coûteux de raser le pénitencier actuel pour construire un autre pénitencier à la place de celui qui existe déjà. Mais ça, c'est impossible parce que à partir du moment où le bâtiment est devenu cette fameuse attraction récréo-touristique, le bâtiment a été classé comme monument national. Donc, il faudrait retirer ce statut au bâtiment pour pouvoir le détruire ou le rénover ou quoi que ce soit. Il faudrait en retirer ce statut, ce qui est pas pensable.
Et dans les deux cas, il y aurait quand même besoin d'avoir des travaux de maintien pour éviter que ça tombe sur quelqu'un.
Oui,
tu le dis autour, les bâtiments sont super beaux, mais il y a des clous qui peuvent te donner le tétanos, puis t'as l'impression qu'il y a des murets qui peuvent te tomber dessus, là.
Absolument, si tu te rappelles, les tours de garde, là, sont assez rouillées,
Mais ça tient, ça devient des tours de pise américaines.
Oui, et il y a certains bâtiments, là, par exemple, les bâtiments où il y avait autrefois les générateurs pour alimenter en électricité l'île, ces bâtiments-là sont réduits à l'état de squelette, et les grosses chaudières sont complètement rouillées, ben, elles peuvent plus fonctionner, là. là. Il y a comme une espèce d'invraisemblance. Ça coûterait moins cher d'ajouter des ailes à des pénitenciers actuels. Je pense, par exemple, au pénitencier de la DX, qui est à Florence, au Colorado, le Supermax. C'est là qu'est détenu, d'ailleurs, Joaquim Guzman, là, le El Chapo. Là. Donc, ce sont des pénitenciers à haute sécurité. Et donc, ça coûterait moins cher d'ajouter des ailes à ces pénitenciers pour accueillir d'autres prisonniers que de penser rouvrir à nouveau Alcatraz. Ça, c'est une espèce de fantasme qui a été lancé. Visiblement, Donald Trump a jamais mis les pieds à Alcatraz. Il a regardé beaucoup trop de cinéma. Il s'imagine que la prison est encore comme elle était dans les années 50 et 60. Le monde a bien changé depuis. Donc, l'idée de rouvrir Alcatraz est tout à fait invraisemblable. Et c'est tant mieux comme ça, parce qu'en même temps, si on devait rouvrir Alcatraz, tu comprends bien que ce serait une perte économique très importante.
Oh,
d'une
oui.
part, on n'aurait pas réglé les problèmes d'alimentation du pénitencier, un problème qui était majeur en 1963 qui a entraîné sa fermeture. Il faudrait également penser à reconstruire à nouveau des quartiers pour les gardiens, ramener des familles dans l'île. Et ensuite, une fois qu'on aura tout fait ça, ben il faut quand même penser qu'on va priver la Californie et principalement la grande région de San Francisco d'une véritable manne touristique. Je sais pas pour toi, mais moi, à l'époque où j'ai visité Alcatraz, bon, évidemment, quand on y allait pour un tournage, c'était particulier, on y allait avec le bureau du tourisme, mais pour les gens qui visitent Alcatraz, je sais pas pour toi comment ça s'est passé, mais quand on arrive à San Francisco, il faut réserver d'avance sa place sur le bateau qui nous amène à Alcatraz, du moins en grande période touristique, en plein milieu de l'été. Pensez pas que vous allez arriver à San Francisco, vous allez aller avoir une place sur le premier bateau qui vous amène à Alcatraz. Ces bateaux sont bondés.
Tellement mal chanceuse que c'était la journée de grande crue. Là. Il pleuvait. Il y a eu des avertissements nationaux là, des avions cloués au sol à l'aéroport de San Francisco. Il pleuvait, puis malgré ça, les ferries étaient pleins.
Ah oui,
on est allé pareil à pluie battante, mais on est allé.
C'est vraiment une attraction qui est très courue par les touristes. Puis c'est vrai que c'est sur ce point, Donald Trump avait raison. Ça joue sur l'imaginaire. Quand tu débarques à Alcatraz, on débarque exactement à l'endroit où débarquaient les prisonniers sur les quais qui sont du côté est de l'île, avec ce gros panneau là qui dit bienvenue à Alcatraz.
Oui, c'est vrai.
Et juste devant nous, on a le bâtiment administratif et le bâtiment du gardien-chef de la prison. Donc c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. On est sur le rocher, c'est le nom qu'on lui donnait à l'époque. Et bien sûr, il y a tout ce qui entoure ça. On sait que des prisonniers célèbres, Al Capone, Machine Gun Kelly, Robert Stroud, l'homme aux oiseaux d'Alcatraz. Tu sais, il y a des noms qui sont associés à ça. C'est sûr que ça frappe l'imaginaire, mais bon, ouvrir Alcatraz reste un fantasme pur et simple. Je pense que j'ose imaginer, c'est pas impossible. Avec Donald Trump, on sait que le mot déraisonnable ne fait pas partie de son dictionnaire, et on l'a vu au cours des derniers jours. Mais bon.
Mais provoquer, ça fait partie un peu de sa médecine, on va dire comme ça. Puis ça fait l'effet escompté. Oui, voilà.
Ouais, ça fait parler. Donc on parle. Moi, j'ai vu à partir du moment où Trump a fait cette annonce, j'ai vu plein d'émissions américaine de fin de soirée où on s'est moqué de lui, mais on parlait de lui. On parlait de cette idée d'ouvrir Alcatraz. Donc, tous les émissions, les talk shows de fin de soirée faisaient des blagues sur ça. Mais en même temps...
ça marche.
Ça fonctionnait. Il alimentait les rumeurs, les discussions. Et encore, tu vois, aujourd'hui, on parle de ça. Et pourquoi on en parle? Ben parce que Donald Trump a annoncé cette idée-là assez saugrenue de rouvrir le pénitencier d'Alcatraz. Donc, bon, quelque part, ça fonctionne. Mais j'ose imaginer que le jour, il va venir pour signer un décret pour ouvrir le pénitencier. Il y a sûrement des gens autour de lui qui vont dire, bon, écoute...
On va parler des vrais chiffres, là.
On va parler des vrais chiffres, là, puis c'est peut-être mieux de construire une prison ailleurs que de rouvrir Alcatraz, tu sais.
Ben oui, mais ça reste quand même... C'est l'actualité la plus rigolote que tu avais ce soir. Il nous reste encore une dizaine de minutes, mon cher Christian. Est-ce que tu as le temps, en fait, de parler du roi Arthur ou des anciens Égyptiens?
Je vais te parler du roi Arthur. Moi, je l'aime bien, le roi Arthur. Encore une fois, on frappe l'image. on frappe l'imaginaire, oui, avec le roi Arthur, hein. Bon, les gens, moi, souvent les gens m'écrivent, on me parle, est-ce que le roi Arthur a réellement existé? Est-ce que Robin des Bois existait? T'sais, ce sont des grandes figures qui font partie de l'histoire et dont on s'interroge sur l'existence réelle. Il y a quelques semaines, pour la période de Pâques, on avait parlé, ou c'était à Noël, je me rappelle plus trop, on avait parlé de Jésus historique, hein. Bon, oui, est-ce qu'il y a un Jésus? Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu également un roi Arthur? Et on ne le sait pas. Officiellement, là, les archéologues et les historiens restent partagés. Et ce qui m'amène à ma nouvelle, en fait, qu'est-ce que l'on sait du roi Arthur? C'est un personnage assez légendaire, on le sait. Les premiers écrits qui parlent du roi Arthur apparaissent aux alentours du 12e siècle. Ces récits sont un peu comme des chambardes ou des poèmes ou des proses, et elles sont surtout de deux auteurs particuliers, un certain Geoffroy de Monmouth et Chrétien de Troyes. Ce sont les deux premiers qui vont vraiment mettre sur papier les légendes arthuriennes. Ces légendes arthuriennes, elles circulent, hein, de bouche à oreille, elles font partie d'une tradition anglo-saxonne particulièrement, et bretonne, parce que bon, Chrétien de Troyes est breton, donc elles font partie de ces traditions, et elles racontent l'histoire de ce chef, ce roi, hein, qui aurait été le fils de Uther Pendragon, hein, de l'union illicite de Uther Pendragon et de Ygraine, la femme du duc de Carnoailles, dont lui, grâce à Merlin, l'aurait réussi à changer son apparence, ce qui lui aurait permis de séduire Ygraine, donc la femme du duc de Cornouailles qui aurait donné naissance à Arthur. Et là, ben, tout ce qui s'ensuit, Arthur élevé dans l'ombre de Merlin, éventuellement la dame du lac va faire de lui le prochain roi d'Angleterre. Il va porter le nom de Arthur Pendragon, hein, son père c'était Uther Pendragon, et la dame du lac va lui donner cette fabuleuse épée qui est Excalibur. Non, ce n'est, oui, pas l'épée qui sort du rocher, hein. Les gens ont tendance à faire cette erreur-là, là. C'est l'épée qui sort du rocher, c'est l'épée qui va le désigner comme le futur roi d'Angleterre ou le roi des Anglais. Mais l'épée Excalibur, c'est un don de la Dame du Lac qui va lui donner Excalibur. Mais bref, c'est un petit détail de l'histoire, mais tout ça pour dire que les historiens croient que Arthur, s'il a existé, bon, n'était pas roi d'Angleterre, il aurait peut-être, son mythe ou sa légende aurait peut-être été créé à partir d'un chef de clan qui aurait pu être important aux alentours entre la fin du 5e, début du 6e siècle, qui aurait eu des gens autour de lui, pas les chevaliers de la Table Ronde, mais des gens autour de lui de preux combattants qui se sont battus pour protéger l'Angleterre de l'invasion, bon, des Romains notamment. Est-ce que c'est possible? Bah, tout est possible à ce moment-là, hein. Les légendes, ce qu'elles font, elles amplifient la réalité, un peu comme lorsqu'on en avait déjà parlé ensemble. Est-ce que Moïse a réellement existé, ou est-ce que Moïse était simplement un chef local que l'histoire du judaïsme a fait de lui un prophète qui a libéré les Hébreux du joug égyptien? On est loin, là. On n'arrive pas à déterminer ça. Mais la découverte, notre nouvelle du jour, elle est intéressante. Il y a plein d'éléments autour des légendes arthuriennes dont on ne sait pas d'où elles viennent. On sait, bon, on connaît tous l'histoire de base, hein, le canevas de fond, cette histoire de la naissance, cette espèce de relation adultère dont va naître Arthur, l'épée, Excalibur et tout le reste. Mais toute la saga, les chevaliers de la Table Ronde, la quête du Graal, tout ça, on a de la difficulté, les historiens ont de la difficulté à savoir quels sont les courants qui ont amené ces éléments-là du récit, quelle est la source de ces éléments-là, et quels sont les éléments qu'on va ajouter au récit, quelle est leur origine de ces éléments-là. Et voilà qu'on a une découverte tout à fait intéressante, c'est l'Université de Cambridge, en Angleterre.
Oui.
On avait déjà en 2019, on avait entrepris de faire une espèce de recensement de l'ensemble des livres anciens, des manuscrits rares qui étaient à la bibliothèque, et on a trouvé un document, hein. Ce document-là se trouve dans une espèce de récit qui s'appelle le druide post-vulgate et le suite post-vulgate. Et le suite post-vulgate, c'est c'est un ensemble de récits romancés en prose qui date du 13e siècle. Donc on a, et dans ce document-là, on a trouvé un autre document qui était plié, donc on l'a mis de côté et on l'a placé éventuellement pour que des experts se penchent sur les documents. Et voilà que en 2025, nouvelle étude, on sort ces documents-là et consternation, ce fameux document qui était plié et qu'on gardait sur la tablette depuis quelques années maintenant, qu'on avait retrouvé, ben on découvre en fait que c'est un document écrit en ancien français. On ne sait pas vraiment qui en est l'auteur, mais le document daterait quelque part du 13e siècle et c'est une aventure du roi Arthur. Hein, c'est un volet des aventures du roi Arthur. Elle raconte l'histoire du roi Arthur, de l'un de ses preux chevaliers qui était Gauvin, qui est un chevalier de la Table Ronde, et l'histoire raconte comment Arthur aurait repoussé l'invasion des Saxons avec son épée Excalibur. Donc c'est intéressant parce qu'on voit ici une prémisse, on voit d'où vient l'un des épisodes, à tout le monde on voit un des éléments des épisodes qui vont alimenter les légendes arthuriennes. Et ce document-là, il était donc conservé à la bibliothèque de l'Université de Cambridge et on n'en connaissait pas l'existence. Donc là, maintenant, on connaît cet élément-là et il peut donc être rajouté aux écrits qu'on connaissait déjà de Geoffroy de Monmouth et de Chrétien de Troyes qui avaient alimenté les légendes arthuriennes. Mais encore une fois, tout ça nous plonge dans les légendes du roi Arthur, mais ne nous apporte pas la preuve archéologique ou historique qui nous permettrait de s'assurer si le roi Arthur a bel et bien existé. Moi, je me rappelle, c'est quand on regarde les légendes d'Arthur, il naît à Tintagel. C'est vrai qu'il y a un château qui est à Tintagel, qui date du 4e, 5e siècle, qui pourrait être le château où est né le roi Arthur, mais bon, il n'y a aucune preuve de ça. Il a régné sur un royaume qu'on appelait le royaume de Camelot, qu'on n'a jamais retrouvé. Il serait mort, assassiné, frappé mortellement par son fils Renégat Mordred à la bataille de Camelot. On n'a aucune idée d'où ça se trouve. Et on nous dit qu'il a été enterré sur les terres d'Avalon. Et sur les terres d'Avalon, j'ai une petite anecdote. Les terres d'Avalon, il faut savoir que c'est l'actuel Glastonbury en Angleterre. Et quand on visite Glastonbury, ce que j'ai fait dans ma série sur à la recherche des reliques saintes, lorsqu'on cherchait le Saint Graal, parce que bon, évidemment, le Saint Graal est un élément, un épisode important dans la quête des chevaliers de la Table Ronde. Quand on est à Glastonbury, il y a un endroit où on nous dit qu'on a trouvé au 13e siècle, en creusant, on a trouvé une espèce d'arbre qui avait été évidé et à l'intérieur duquel se trouvaient deux squelettes et que ces deux squelettes étaient celui du roi Arthur et de sa bien-aimée Geneviève qui avait été enterrée à cet endroit. Et là, on nous dit les moines l'ont changé d'endroit. Il faut savoir que ça, c'est un beau truc touristique, mais ça ne repose sur aucun élément archéologique ou historique. Alors, cette histoire-là circule depuis le 16e et 17e siècle, mais on n'a aucune preuve qu'on ait jamais déterré un cercueil qui aurait contenu les restes du roi Arthur. Donc, c'est un bel élément touristique, mais ça ne repose sur absolument aucun élément archéologique. Et, faut-il le rappeler, des éléments archéologiques qui appuient l'existence du roi Arthur, on n'en a aucun.
OK. C'est ça, hein? Nos épisodes sur les énigmes de l'histoire, ça nous laisse toujours sur un point d'interrogation quasiment plus gros que quand on a commencé l'émission.
Oui, mais c'est fascinant de voir comment l'histoire se réécrit et se réinvente. Et la découverte de documents comme ceux-là, moi, je trouve ça absolument extraordinaire.
On parle d'une nouvelle théorie.
Oui, ça nous rapproche du mythe, hein, ça nous permet de mieux cerner la légende, comment elle naît, comment elle est articulée, comment elle va se véhiculer de génération en génération. C'est tout à fait fantastique.
Je te remercie beaucoup, mon cher Christian. Je te souhaite un excellent long week-end pour les auditeurs également. On vous laisse pas avec des meilleurs moments lundi prochain pour Suspect X. On a un tout nouvel épisode également qui sera disponible dès 22h et on sera disponible en podcast aussi dans les prochaines minutes au www.radiox.com. Je vous laisse découvrir qui sont les Suspects X de lundi prochain. Christian, merci beaucoup.
Ouais, ça m'a fait plaisir. Salut.
Bon week-end.